chères auditrices et chers auditeurs, vous nous écoutez sur la radio Froca, sur la 95. Je m'appelle Dalia et c'est moi qui présente cette émission aujourd'hui. Voici le sommaire de l'émission. Monsieur Eck, l'arrière-petit-cousin de Monsieur Le Bertrand, va nous parler de sa vie et des élèves va nous poser la question. Va poser des questions.
Avec plaisir.
La classe de L, de première L, est très contente. Et donc, on va vous poser quelques questions. Et donc, on attend de vous des réponses en toute sincérité. Donc, première question. En fait, j'aimerais savoir quel avantage financier, s'il y en a un, la repopularisation des œuvres de Monsieur Le Bertrand.
Oui, alors vous voulez savoir en fait à qui profitent les rééditions. Alors c'est pas à moi, rassurez-vous, ça me coûterait plutôt davantage, mais enfin c'est un plaisir que de le faire. En réalité, n'est-ce pas, ce sont les éditeurs qui eux en profitent, n'est-ce pas? Et ce sont eux qui, évidemment, prennent le risque de rééditer l'ouvrage, de faire connaître cette réédition auprès de différents médias. Et je suis passé à plusieurs radios, encore tout récemment d'ailleurs, à Radio Notre-Dame à Paris, c'était la semaine passée, avec deux émissions. Une autre, Radio Courtoisie, c'était la semaine d'avant, émission de 3 heures d'ailleurs. Et voyez-vous, alors donc ce sont les éditeurs qui, eux, évidemment, s'impliquent dans cette affaire-là. Ils investissent, naturellement, le prix, enfin, ce que ça coûte, pardon, pour refaire l'ouvrage, car je vous signale que... Il y a des machines, si vous voulez, pour, quand on prend des vieux livres, des machines qui les lisent et qui les retranscrivent. Et cela donne de très mauvais résultats parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, etc. Et ils préfèrent les faire retaper par des personnes particulièrement compétentes. Alors, ce qui coûte beaucoup d'argent. Puis alors, ensuite, il y a une relecture, il y a fabrication des couvertures, envoi des exemplaires en service de presse aux différentes revues. Que ça peut intéresser, naturellement, si on fait un livre comme Louis Bertrand sur Saint-Augustin, on ne va pas l'envoyer à l'hebdomadaire à la vie du rail. Hein. Il faut choisir les publics que ça intéresse, évidemment. Hein. Voilà, donc si vous voulez, c'est un investissement qui est à risque, parce que si l'édition bouillonne, comme l'on dit, c'est-à-dire que si on ne vend pas, naturellement, comme on dit familièrement, l'éditeur le prend sur les pieds, hein, c'est pour lui. Voilà. Par contre, si ça fonctionne bien, ma foi, il en a tous les fruits. Voilà.
Merci. Je voudrais savoir pourquoi le lycée il s'appelle Louis Bertrand. Enfin, comment on en est arrivé à ce qu'il s'appelle ainsi?
C'est assez simple. Il s'appelle ainsi parce que Louis Bertrand a passé les premières années de sa vie ici. Il est natif de Spincourt, donc pas loin d'ici, dans la Meuse, mais par différents événements que je raconterai tout à l'heure, enfin, il est venu avec sa famille habiter Briey, et il en a fait d'ailleurs le cadre d'un roman superbe, qui est Mademoiselle de Gessincourt, que vous connaissez sans doute, de réputation, qui est un livre vraiment tout à fait remarquable. Et du coup, si vous voulez, la ville de Briey s'est dit, puisqu'on bâtit un nouveau lycée, baptisons-le du nom d'une personnalité connue, enfin qui était connue entre les deux guerres en tout cas, et comme il avait été enseignant lui aussi, pas très longtemps d'ailleurs je dois dire, ça tombait parfaitement. D'autant plus qu'à l'époque, le sénateur Hubert Martin, qui se trouve d'ailleurs être de ma famille, mais du côté de mon père, avait pris l'affaire en main, et par conséquent, ça s'est déroulé ainsi.
Merci. Du coup, il avait assez d'audience. Enfin, il était beaucoup lu.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un auteur, vous savez, de première ligne, comme je disais tout à l'heure, comme Marcel Proust ou Louis-Ferdinand Céline, n'est-ce pas? Mais c'est un auteur considérable qui était extrêmement lu à l'époque. J'ai vu un livre de lui, c'était qu'on a retiré le Saint-Augustin, il y a 5 ans. Eh bien, on a fait des recherches. Le livre avait été tiré à 185 éditions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ceux qu'on voit à la télévision qui présentent leurs petits livres, là, ils auraient bien été contents d'en faire autant. Et il a eu un succès populaire extraordinaire. Il est vrai qu'il y avait deux sortes de... Il y a plusieurs clientèles qui s'y intéressaient. Quand il s'est attaqué à des sujets religieux, naturellement, il y avait toutes les écoles religieuses qui l'achetaient, bien entendu, tout un public christianisé. Bon, ensuite, quand il a fait des ouvrages comme son Louis XIV, qui va d'ailleurs ressortir incessamment, cette fois, c'était les historiens et puis peut-être des gens de mouvance monarchiste. Et puis, quand il a parlé, quand il a fait des romans sur l'Afrique du Nord, ben, naturellement, ce sont les habitants d'Afrique du Nord qui se sont intéressés, etc. Mais toujours, il a pris extrêmement soin, et si vous ouvrez et vous lisez un ouvrage de Bertrand, vous vous rendrez compte combien son style est très beau, d'ailleurs, mais très simple. Car il entend s'adresser à toutes les couches de la population. Voilà.
D'accord, merci.
Vous êtes satisfaite ?
Oui.
Bon, sinon, vous me le dites.
Est-ce qu'il avait une vision particulière de la société ?
Mais moi, il faudrait que vous parliez plus fort. Attendez, je vais faire une remarque pour tout le monde. Ce n'est pas à vous personnellement, mais ça s'adresse au groupe. Bon, j'ai l'habitude, et je me rends compte de ceci, c'est que les personnes de cette époque à laquelle nous vivons parlent dans leur gilet, parlent à toute vitesse, et n'articulent pas. Vous pouvez les voir à la télévision, et même dans les films maintenant. Ils parlent à toute pompe et vous comprenez. Et ils n'articulent pas. Autrefois, il y avait des classes, et les classes qui se trouvaient, les classes terminales d'aujourd'hui, s'appelaient les classes de rhétorique, où on apprenait à parler de manière qu'on soit entendu de tous. C'est pas reproche à ce que vous dites, ça s'adresse à un conseil. Alors, ce qu'il faut, le premier point, c'est parler, comme disent les comédiens, avec la voix dans le masque, c'est-à-dire qu'avec la voix qui sort bien, et parler lentement et bien articulé. Voilà, je ferme cette parenthèse, qui je l'espère, sera utile pour tout le monde. Mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Allez, allons-y, dites-moi ça bien clairement.
Est-ce qu'il avait une vision particulière de la société ?
Oh, alors là, c'est un sujet extrêmement vaste là, que vous abordez. Je crois qu'on pourrait prendre le sujet de la manière suivante. C'est qu'il a surtout une vision, enfin je l'expliquerai tout à l'heure, ça, une vision du destin de la France. Car Bertrand est avant tout, comme beaucoup de gens de sa génération d'ailleurs, un patriote. Car il a vu 1870. En 1870, il avait 4 ans. Il a vu arriver les Prussiens. Il a vu arriver la frontière qui n'était pas loin là. Et il est allé ensuite avec ses parents voir une tante qui habitait Metz et voir comment Metz était en train d'être une ville que les Allemands étaient en train de faire quelque chose, c'est évidemment une vitrine pour leur expansion. Et là, il s'est dit, où allons-nous, nous, Français ? Et c'est là où, arrivant en Algérie, il s'est dit, mais oui, mais c'est avec tous ces peuples que nous avons, avec nous, que peut-être là pourra venir le salut, voyez-vous ? Voilà, mais ceci devrait se faire avec un apport spirituel, car il va revenir à la religion catholique, donc en 1906, lors d'un voyage en Terre Sainte. Alors voilà, si vous voulez, la vision qu'il a, c'est avant tout, me semble-t-il, et je vous remercie d'avoir posé la question, parce qu'elle n'est pas commode, hein, entre parenthèses, c'est que sa vision, je crois qu'il faut la prendre comme ça. Il faut la prendre par le côté français, si vous voulez, patriotique. Car il n'a eu qu'un seul, je crois, enfin, j'ai lu à peu près tous ses ouvrages, mais il n'a eu qu'un seul souci dans sa vie. C'est l'amour de sa patrie. Voilà, voilà. Cette réponse vous satisfait-elle ?
Oui.
Merci. Ou avez-vous besoin d'autres ?
Non, merci.
Souvenez-vous, hein. Voilà. Ah, il y a quelqu'un là-bas.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en apprendre un peu plus sur ses modèles, ses inspirations, les auteurs qu'il lisait ?
Pas si vite, encore une fois, et articulé.
Excusez-moi.
Mais est-ce parlez, que vous pourriez... Bonsoir, on n'est pas pressé.
Est-ce que vous pourriez nous en apprendre un peu plus sur ces modèles, ces inspirations et par exemple les auteurs qu'il lisait?
Ah oui, alors les auteurs qu'il lisait. Alors, il y a un auteur qui va décider beaucoup de sa vocation d'écrivain. Cet auteur, c'est Gustave Flaubert. Bertrand est un élève brillant. Ses parents vont l'emmener au lycée de Bar-le-Duc. Là, il sera remarqué donc pour ses talents et il sera admis à Henri IV à Paris. Là encore, très brillant, il intègre Normale supérieure, donc est non loin de là, à quelques vingtaines de mètres. Où il fut un des normaliens les plus brillants de sa génération. C'est même lui qui porte la couronne mortuaire de l'école normale supérieure lors des obsèques de Victor Hugo. Il le raconte même dans un livre spécial qui s'appelle « Hippolyte porte-couronne », qui raconte justement largement cette chose-là. Alors Bertrand, si vous voulez, pendant qu'il est donc à l'école normale supérieure, parce que c'est un internat là-dedans, c'est un séminaire, on sort pas, il a une révélation, c'est le Salambo de Flaubert. Alors évidemment, il est amoureux de Salambo, bien entendu. Et Salambo, elle danse pas très vêtue sur une terrasse. Enfin, il fait très chaud, il y a des machins. Bon, tout ça. Alors évidemment, il est très emballé par Salambo. Et il est emballé aussi énormément par le style de Flaubert. Et il s'en voudra toujours être le continuateur. Le continuateur, car on trouvera chez lui beaucoup de ce qui a fait le succès de Flaubert, et on trouvera chez lui, on ne trouvera pas chez lui certains défauts qu'il y avait chez Flaubert. Et je me souviens d'un très savant professeur qui connaissait 9 langues, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, et qui me disait ceci. Vous savez, moi, je connais bien Flaubert, je connais bien Bertrand. Mais quand je lis, quand je compare Madame Bovary, d'une part, et Mademoiselle de Jassincourt, il me disait, je me demande si Mademoiselle de Jassincourt n'est pas supérieure à Madame Bovary. Donc, alors si vous voulez, donc là, pour répondre à la question qui m'est posée, pour pas faire de digression, l'inspiration qu'il a d'abord, c'est c'est Flaubert. Et puis alors, il a une culture latine, je parle ici aux latinistes, qui est absolument extraordinaire. Parce que vous savez que pour être docteur ès lettres, comme l'a été Bertrand, à son époque, il fallait faire 2 thèses. L'une en français et la seconde en latin. Alors donc, il a une connaissance de la culture antique, de la culture classique gréco-romaine, qui est tout à fait remarquable. Voilà, si vous voulez, ce que je pense qu'on peut dire sans trop se tromper sur ces inspirations. Ah bah dites donc, ça va maintenant, ils sont échauffés.
J'aimerais savoir si...
Plus fort et en articulant, autrement je ne réponds pas.
Est-ce que Louis Bertrand appartenait à un mouvement littéraire précis?
Alors là, vous me posez une question... à laquelle, je dois dire, je n'avais pas songé. Eh bien, le fait que je n'y ai pas songé semblerait justifier qu'il ne faisait partie d'aucune école. Parce que si on étudie bien son œuvre, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement originale parmi les auteurs de son époque. Hein, que l'on prenne Loti, Bourget, etc. Pardon. Il y a cela... Et je pense que son inspiration est multiple. On a les romans historiques, les romans, les biographies de Saint-Augustin, de Sainte-Thérèse d'Avila, des romans coquins comme Pépette le Bien-Aimé. Enfin, il a une variété d'inspiration qui est très, très vaste. Donc je ne pense pas qu'on puisse le classer dans une école particulière.
D'écrivains.
Plus fort.
Est-ce qu'il appartenait à un groupe d'écrivains?
Ah non. Non, c'est-à-dire que si vous voulez, il a lancé ses romans tout seul, mais il les faisait paraître. Il a collaboré beaucoup avec, la revue avec Doumic là, et alors c'est par les revues, si vous voulez, littéraires qui s'est fait connaître aussi, parce qu'il a fait beaucoup de journalisme également. Il écrivait dans des hebdomadaires, dans des quotidiens comme le Figaro d'ailleurs à l'époque. Il était une des grandes plumes du Figaro, par exemple.
D'accord, merci.
Bonjour. Est-ce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale?
J'entends pas.
Est-ce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale?
Non, il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il était trop vieux. Il avait près de 50 ans, oui, 45 ans, donc il n'était pas mobilisé à l'époque. On ne mobilisait plus à l'âge qu'il avait. Mais inutile de dire que, comme à beaucoup de Français, c'est un choc énorme pour lui, bien entendu. Mais alors ensuite, il a servi son pays de différentes façons. D'ailleurs, ça ne paraît pas dans ses ouvrages, mais on le sait, il a eu des missions secrètes qui ont été confiées par le gouvernement français parce qu'il connaissait très bien le Moyen-Orient et la Méditerranée. Alors il a eu des missions secrètes confiées par le gouvernement français auprès d'Atatürk, qui l'a vu, auprès des Égyptiens. Auprès de Mussolini aussi. Et tout ça, il ne raconte pas, mais enfin, c'est écrit par un... ça a été relaté par son ancien secrétaire et légataire universel qui avait ses offres, qui est décédé aujourd'hui. Voilà, voilà. Ça vous satisfait? Il faut le dire, ça va pas. On a des habitués, là.
D'où
plus fort, son... et distinctement.
D'où lui vient son attirance pour le monde méditerranéen?
Ah oui, alors oui, mais ça m'embête ce que je raconte, parce que je vais le raconter tout à l'heure, c'est ça qui m'ennuie. Ils ne seront pas à la conférence. Bon. Mais moi, j'y serai, c'est ça qui m'embête. Alors, son attirance pour le monde méditerranéen, il vient de deux choses. Il vient d'abord des années qu'il a passées ici. Un pays froid, et un pays hostile. Puis la guerre de 70. Ensuite, ça a été ces années horribles passées au lycée de Bar-le-Duc, où il a froid, où c'est sale. Et là, en lisant Salammbô, il voit qu'il y a d'autres pays pleins de soleil. Et il se trouve que, devant gagner sa vie, il entre dans l'enseignement, puisqu'il est agrégé donc de lettres, et on le nomme professeur. Pourquoi faire?
Je sais pas, c'est
mieux. Ah bon? On le nomme professeur à Aix-en-Provence. Et là, il y a une première révélation du monde méditerranéen. Il y rencontre d'ailleurs le poète Joachim Gasquet, qui va être un ami pendant pratiquement toute sa vie. Et ensuite, ça va être couronné par son envoi en Afrique du Nord, au lycée d'Alger, et sa découverte de l'Afrique du Nord, de l'Algérie. Et la Tunisie, il a fait quelques sauts au Maroc, mais ça l'intéressait moins. Et c'est surtout Algérie et Tunisie. Alors, si vous voulez, ce garçon qui arrive de ce pays-ci, parce qu'il y a une description dans Jean Perbal de La Voivre qui est absolument extraordinaire. Hein. Oh, il y a une... Je sais pas si vous avez lu, non, Jean Perbal? M'en vais-vous le lire, moi? Ah non, ça vaut le coup. Non, non, ça vaut vraiment la peine. Hein. Alors là, on comprend pourquoi Bertrand, il est parti en courant. Et alors, il n'est pas revenu très souvent, c'est pourquoi. Ce qui est très étonnant, c'est que son souvenir ait été maintenu ici, parce que après, il s'est installé sur la Côte d'Azur. Alors, on l'a plus revu beaucoup dans l'Est, vous comprenez? D'où un certain mécontentement de la part des gens de l'Est. Je vous demande une petite seconde, je suis à vous. Alors, j'ai foutu mon truc là. Voilà le texte. Alors, cet extrait de Jean Perbal... Parce que Bertrand, enfin, dans ses œuvres, a fait une suite de 6 ouvrages qui racontent sa vie et les différentes parties de sa vie. Et un livre très, très intéressant, mais c'est en 6 volumes. Alors, dans Jean Perbal, le premier volume de cette série, il écrit ceci. Écoutez bien. À perte de vue, une grande plaine agricole aux ondulations insensibles. Une platitude morne qui commence on ne sait où. Et qui a l'air de ne pas finir. C'est la Voivre finissante, aux environs de Spincourt. Au printemps, cette platitude a quelque chose de décourageant pour le regard. L'attention ne sait où se prendre, tant c'est misérable. La bigarrure des champs cultivés morcelle l'étendue en une foule de petites pièces, rectilignes et médiocres. Les bois, qui ont repris leurs feuilles, forment d'autres taches vertes également rectilignes et médiocres, qui découpent avec un faible relief le vert plus laiteux des cultures. Dans le lointain, il y a bien quelque chose qui s'élève au-dessus du sol, la chaîne boisée des côtes de Romagne, assez nettement visible par les temps clairs. Mais les contours mous se dessinent sans grâce sur un ciel sans profondeur, pourtant infini comme la plaine. Cette immensité n'a pas d'horizon. En hiver, quand elle est ensevelie sous la neige, ou quand la houle lugubre et brunâtre des glèbes, fraîchement retournée, déferle comme une mer houleuse, en été, après la moisson, quand la blondeur uniforme des chaumes imite de vastes espaces sablonneux, cette plaine dépourvue de style produit néanmoins une impression singulière. À force de vide et de nudité, le triste paysage finit par prendre un aspect de solitude austère et âpre qui n'est pas sans grandeur. Un souffle de vent glacial, même au cœur de l'été, fait frissonner les feuilles des peupliers sur le grand bord de la route, et c'est une plaine prolongée, immaculée, qui vous met l'âme en détresse. Voilà. Alors donc, inutile de vous dire que lui, il n'est pas tellement friand pour revenir par ici. Hein. Il préfère, puisque ensuite, quand il a quitté Alger, où il est resté 9 ans, il s'est installé sur la Côte d'Azur, où d'ailleurs il est mort, je vous le répète, donc il y a 76 ans, il y aura 76 ans demain. Et il y a une coïncidence très curieuse, c'est que, comme je vous l'ai dit, il était un admirateur fervent de Flaubert, et il se trouvait que sur la Côte d'Azur, à Antibes, vivait la nièce de Flaubert, Mademoiselle Caroline, Madame Franklin Groux. Et il va la voir un jour, et voilà qu'ils se prennent d'amitié. Tant et si bien que Madame Franklin Groux, qui avait une très belle propriété donc à Antibes, lui a vendu une partie, une parcelle qui dépendait de sa propriété, parcelle sur laquelle il a fait construire sa propre maison. Et là, évidemment, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, enfin, avant 14, il y avait une vie mondaine sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire que les gens n'y allaient pas l'été comme aujourd'hui, parce qu'il ne fallait pas surtout être vu l'été sur la Côte d'Azur. C'était alors là du plus mauvais ton. Ils y allaient l'hiver. Et se retrouvaient donc sur la Côte d'Azur beaucoup de gens qui constituaient une sorte de cercle artistique et littéraire à Paris. Et chez Madame Franklin Groux, naturellement, se réunissaient ces gens-là, dont naturellement Bertrand, qui habitait tout à côté. Alors, beaucoup de Bourget y est venu, enfin bon, Maupassant aussi, Angers. Et donc Madame Franklin Groux, voyant donc l'amour que Bertrand avait pour Flaubert, pour son oncle, lui a donné la bibliothèque de Flaubert. Ce qui fait que Bertrand a écrit un certain nombre de ses romans, assis dans le fauteuil de Flaubert. Il a écrit sur le bureau de Flaubert et avec dans son dos la bibliothèque de Flaubert. Ces bibliothèques, j'ai eu des nouvelles d'elle il n'y a pas longtemps, elle est aujourd'hui près de Rouen, là où se trouve autrefois Croisset, vous savez, Croisset avec Flaubert, dans la ville de Canteleu, et c'est la mairie de Canteleu qui a fait un musée pour Flaubert et qui a installé cette bibliothèque, laquelle a été vendue à l'Académie française quand Bertrand est mort par sa sœur et seule héritière. Bertrand meurt, sa seule héritière, c'est sa sœur, qui avait 2 ans de moins que lui, avec laquelle il vivait, et celle-ci, en 43, je crois, l'a vendu à l'Académie française. Mais à l'époque, il y avait la ligne de démarcation, la France était occupée, et cette bibliothèque n'a pas pu être amenée à l'Académie en raison des circonstances. Ce n'est donc qu'après-guerre, donc en 46, je crois, qu'elle a été amenée. Mais alors l'Académie s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas où la mettre. Alors ils l'ont envoyée à Croisset, donc là où il y avait déjà la maison de Flaubert, et c'est là où elle se trouve actuellement. Alors j'ai su, il y a quelques semaines, que tout ce mobilier était en train d'être réhabilité, nettoyé, enfin refait, etc. Et j'ai vu ça dans le journal Paris-Normandie. Ah voilà, je ferme cette parenthèse. plus qu'un quart d'heure. Hein.
Donc, on sait qu'il a écrit un livre sur Hitler, mais dans cet ouvrage, il ne critique pas ouvertement Hitler, mais n'en fait pas non plus totalement son éloge.
Mais il
n'en fait pas totalement son éloge. Enfin, il ne dit pas qu'il est pour les idées d'Hitler, mais en fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que M. Louis-Bertrand pensait d'Hitler.
Bon, et vous avez bien fait de poser cette question, parce que ce truc-là est embêtant. Comment les choses se passent-elles? Il faut bien comprendre que nous sommes du temps de la Troisième République, fondée en 1871, comme chacun sait, et cette Troisième République est un régime assez faible, puisque, je le rappelle, chaque gouvernement de la Troisième République durait 6 mois. C'est vous dire la politique suivie que pouvait avoir la France à l'époque. Donc on s'aperçoit que le régime n'est pas assez fort. Or, la France a gagné la guerre en 1918, mais il y a toutes les histoires des réparations, etc., vous savez, qui se terminent comme vous le savez, parce que c'est les Américains qui rachètent les créances, etc. Et les Allemands sont furieux. Parce qu'on les met responsables de la Première Guerre mondiale, ce qui ne sont pas plus que les autres. Et les affaires vont très très mal. Et Adolf Hitler, tout à fait démocratiquement d'ailleurs, c'est de la différence avec Lénine. Parce que Lénine, c'est un coup d'État hein, quand il vient au pouvoir. Tandis que Hitler, il vient démocratiquement, c'est-à-dire par le vote. Hitler va remettre l'Allemagne en 2-3 ans sur pied. Et ça, tous les témoins qui sont allés en Allemagne à cette époque-là peuvent le dire. Or, en France, on n'y va pas, et on se dit, bon, bah ouais, Hitler, bah oui, bon, tout ça, c'est au total, il réoccupe la Rhénanie, il réoccupe la Sarre, on ne fait rien, bien entendu, nos divisions restent à mon pied. Et Bertrand se dit, je veux en avoir le cœur net, je voudrais aller le voir. Alors, il y a à Nuremberg les grands messes, vous savez, national-socialistes, et il s'y rend. Il y a une semaine où c'est la semaine du parti. Et Bertrand, il voit ça. Et il voit tous ces types en rang qui marchent. Enfin, ce qu'on voit sur les bandes d'actualité, sur toutes les chaînes de télévision françaises, au moins une fois par semaine, entre parenthèses. Bien, alors, il dit quand même, il est fasciné par tous ces types. Là, c'est inquiétant de voir tous ces gens. Et que fait la France pendant ce temps-là? On fait rien, on réarme pas. Léon Blum disait, plus Hitler réarme, plus je désarme. Alors que ça, bon, c'est embêtant. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Il le disait, mais il ne le faisait pas. Bon, bref, en tout cas. Et il revient, et il fait un petit livre que je n'ai pas emmené, là, d'ailleurs. C'est ballot, tiens, j'aurais pu vous le montrer. Et il fait un petit livre qui s'appelle Hitler, où il explique son séjour d'une semaine à Nuremberg, où il a vu les Allemands qui défilent, le machin, ils sont tous là, au pas de loi, tout le truc, tout ping-pong. Il dit, là, il y a de quoi s'inquiéter. Alors il dit, mais oui, mais pourquoi, si nous étions forts, mais il faudrait qu'on le soit, on pourrait parler avec lui. Mais malheureusement, on ne l'est pas. Donc il met en garde, si vous voulez, c'est une admiration qu'il a sans doute, parce qu'attention, Hitler... On parle de 35, hein. Attention, c'est pas l'Hitler de 45. Et il n'a encore pas fait les méfaits qu'on sait. Et il a remonté ce pays-là, il faut faire très attention. Si vous voulez, c'est une admiration inquiète, je dirais. Voilà, terminé. Eh bien non, c'est pas fini. Et là, c'est là où les ennuis commencent pour Bertrand. C'est que, à l'issue de la campagne de 1940, la France doit déposer les armes. Nous sommes vaincus. Et les Allemands occupent une moitié de la France. Et c'est à ce moment-là que la propagande allemande, la propagande d'Achtafel de Paris, se dit, mais mince, le bouquin de Bertrand ferait peut-être notre affaire si on le rééditait. Parce que finalement, il dit que, bon, d'une certaine façon, il admire la façon dont il est arrivé au pouvoir, tout ça. Bon. Et il demande à Bertrand, qui habite sur la Côte d'Azur, il lui demande de pouvoir rééditer l'ouvrage. Alors vous pensez bien que Bertrand, vieux patriote, etc., refuse avec la dernière énergie. Et les Allemands, pour le punir, lui interdisent de revenir. Il avait un pied-à-terre à Paris, hein. Et il fait une demande pour traverser la ligne de démarcation, puisqu'il est dans la zone libre et il veut aller à Paris. Et la demande est faite par le maréchal Pétain, chef de l'État, auprès des autorités allemandes. J'ai l'original chez moi, j'ai le document, ça je peux dire. Et les autorités allemandes refusent. Donc, ce qui montre bien combien il n'est pas avec eux. Et en second lieu, Bertrand meurt donc le 6 décembre 41, même demande à sa sœur, légataire universelle, de la part des Allemands, donc, elle refuse évidemment avec la même énergie. Alors, Otto Abetz, donc, qui dirigeait l'ambassade d'Allemagne à Paris, ne s'en fait pas, il fait rééditer carrément de sa propre autorité le bouquin. Alors, finalement, Bertrand se trouve, lui, il se trouve comme un, si je puis dire, il est un collaborateur, mais comment dirais-je, rétroactif, puisqu'il était mort, quand ça s'est passé. Parce que la réédition par les Allemands est de 42, et Bertrand est mort depuis un an. Donc, on se trouve dans cette période, c'est extrêmement gênant. Mais c'est une bonne, puisque à l'époque, après la libération, donc, si vous voulez, il y a une tendance qui est contre la droite. Bertrand, vous ne pouvez pas le cacher, c'est un homme de droite. Bon, on est tout content de le faire disparaître dans la trappe grâce à ce truc-là. Et voilà l'idée de manœuvre. Or, j'ai lu Hitler. C'est un petit bouquin, il fait 45 pages, je ne sais pas. Mais c'est vachement bien, d'ailleurs. Il n'y a rien en tant que français. Enfin, je suis officier de l'armée française, mais il n'y a rien qui choque mon instinct patriotique. Il n'y a rien. Parce que les gens qui parlent de Hitler, ils ne l'ont jamais lu. C'est ça qui est bien. C'est uniquement le titre. Je suis désolé, mais il y a eu des livres qui sont parus, même en 36, même année. C'est le Staline de M. Henri Barbusse. Celui-là, on n'en parle pas. Dommage. Moi, je l'ai lu. J'ai rien contre Barbusse. J'aime beaucoup le feu. Enfin, bon, il a fait des trucs très bien. Mais je crois que le Staline de Barbusse est, à mon avis, aux Jeux Olympiques du faillotage. Lui, là, voilà, il est sur la première marche. Hein. Voilà. Mais lui, on ne lui dit rien.
À nuit à sa réputation.
Ouais, ben, ça n'a pas nui à sa réputation sur le moment. C'est l'utilisation qui en a été faite après. Je veux dire, voyez-vous. Hein. Et d'ailleurs, ce que disait Bertrand, c'est-à-dire que le pouvoir français n'était pas assez fort, en fait. Comme je vous l'ai dit, il y avait un gouvernement tous les 6 mois. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette réforme qu'attendaient tous les Français, elle a été faite par quoi? Je n'ai pas l'heure de suivre beaucoup, là. Ben, elle a été faite par la Constitution de 1958, qui renforce le pouvoir exécutif. Voilà, voilà les affaires.
Quels sont les principaux thèmes de ces ouvrages?
De?
Quels sont les principaux thèmes de ces ouvrages, à part la Méditerranée, l'Algérie?
Mais justement, c'est la variété de son inspiration. C'est la variété de son inspiration. Il a fait des tas de trucs dans tout sens, en tout domaine. Non, c'est vrai, parce que vous avez des auteurs, ils font toujours à peu près la même chose. Hein. Ils ont un bouquin qui fait du succès, bon, ils en font un autre qui est à peu près le même, et puis vas-y, comme ça, ils sont bien tranquilles. Mais lui, c'est pas son cas. Il change sans arrêt de thème. Et il en a fait, attendez, je l'ai là. Je vous demande une toute petite seconde. Hein. Voilà. Alors, il faut pas oublier que Bertrand est un auteur extrêmement prolifique. Et il va écrire 12 romans, 16 ouvrages de voyage, 3 ouvrages de critique. Et tout ceci sans omettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa collaboration au Figaro, à Candide et surtout à la Revue des Deux Mondes. Alors, c'est quelqu'un qui est très original. Cependant, je lisais sous la plume de Guy de Maupassant, il disait, et surtout ce qui ne doit pas arriver à un auteur, c'est... sont 3 choses. 1, d'être chevalier de la Légion d'honneur. 2, c'est d'être de l'Académie française. Et Bertrand a eu tout cela. En dépit de son côté très original, en tout cas. Voilà.
Merci. Bah, bonjour, du coup. Est-ce que vous avez
encore
connu...
Oui, attendez, je ne vous vois pas. Ah bon, si, oui.
Est-ce que vous avez connu Louis Bertrand personnellement ou pas?
Non, parce que j'aurais pu, si vous voulez, mais j'aurais été petit. Mais Louis Bertrand habitait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, habitait sur la Côte d'Azur, à Antibes. Or, à l'époque, pendant la guerre, la France était coupée en deux. On ne pouvait pas aller d'une partie de la zone occupée où je me trouvais, donc dans les Vosges, là-bas. Et de même, lui ne pouvait pas venir, la preuve, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, je n'ai pas pu. Par contre, j'ai connu, c'est très curieux parce qu'il y a encore des survivants, Bertrand a eu donc un secrétaire et dont il a fait son légataire pour ses œuvres. Et ce secrétaire avait lui-même une secrétaire qui vit toujours et avec qui j'ai encore dîné il y a quelques mois. Mais enfin, elle commence à atteindre les 90 ans. Hein. J'aurais pu le connaître, voyez-vous, mais les circonstances de l'époque l'empêchaient. C'est toujours les mêmes. J'en remercie d'ailleurs ces personnes qui se dévouent avec un courage qui les honore, n'est-ce pas ?
Ah, bonjour.
Le dos, excusez-moi.
Je voulais savoir si vous étiez vous-même écrivain.
Oh oui, j'ai écrit différents livres. Enfin bon, j'ai été correspondant pour différentes revues. Mais c'était des ouvrages que j'ai faits sont des ouvrages techniques, puisque j'étais juriste. Hein, j'ai fait des ouvrages juridiques. Et puis j'étais correspondant pour des revues. J'étais correspondant pour la revue des notaires du Québec, la revue officielle notariat québécois. J'ai été président de congrès, enfin des rapports, enfin bref, différentes choses, quoi. Eu leur intérêt en leur temps, mais maintenant, c'est bien, bien éloigné. Mais enfin, je ne dis pas que si le temps m'a encore donné, je ne raconterai pas quelques anecdotes sur ma vie passée qui pourraient peut-être amuser, enfin, ou intéresser, en tout cas. Voilà, voilà.
Merci.
Mais je vous en prie. Bah, si personne n'a plus rien à dire, intérêt à boire un coup. Eh bien, je vous remercie de votre très bienveillante attention. Je suis très content.
Attends.
3, 2, 1. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur la radio Franca.
Juste regroupez-vous parce qu'il y a une photo avant de pouvoir écouter.
Vous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.